Audiolib présente Le goût des pépins de pommes de Katharina Aguena, lu par Cachou Kirsch. La mémoire ne nous servirait à rien si elle fût rigoureusement fidèle. Paul Valéry. Chapitre 1. Tante Anna est morte à 16 ans d'une pneumonie qui n'a pas guéri parce que la malade avait le cœur brisé et qu'on ne connaissait pas encore la pénicilline. La mort survint un jour de juillet, en fin d'après-midi. Et l'instant d'après, quand Bertha, la sœur cadette d'Anna, se précipita en larmes dans le jardin, elle constata qu'avec le dernier souffle rauque d'Anna, toutes les groseilles rouges étaient devenues blanches. C'était un grand jardin. Les nombreux vieux groseilliers ployaient sous les lourdes grappes. Elles auraient dû être cueillies depuis longtemps, mais lorsque Anna était tombée malade, personne n'avait plus songé aux baies. Ma grand-mère m'en a souvent parlé, car c'est elle, à l'époque, qui a découvert les groseilles endeuillées. Il n'y avait plus depuis lors que des groseilles noires et blanches dans le jardin de grand-mère, et toutes les tentatives ultérieures visant à y réintroduire des groseilliers rouges se sont soldées par un échec. Leurs branches ne portaient que des baies blanches. Mais cela ne dérangeait personne. Les blanches étaient presque aussi savoureuses que les rouges. Quand on les pressait pour en extraire le jus, le tablier n'en souffrait pas trop, et la pâle gelée que l'on obtenait luisait de reflets d'une mystérieuse transparence. « Comme des larmes en conserve », disait ma grand-mère. Et aujourd'hui encore, on trouvait sur les étagères de la cave des bocaux de toutes les tailles, avec de la gelée de groseille de 1981, un été particulièrement riche en larmes, le dernier été de Rosemary. En quête de cornichons au vinaigre, ma mère est tombée un jour sur un bocal de 1945, contenant les premières larmes d'après-guerre. Elle en a fait cadeau à l'Association pour la sauvegarde des moulins. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi elle donnait la délicieuse gelée de grand-mère à un écomusée, elle a déclaré que les larmes contenues dans ce bocal étaient trop amères. Ma grand-mère, Bertha Lünchen, née Delwater, est morte quelques décennies après tante Anna. Mais à ce moment-là, il y avait déjà un certain temps qu'elle ne savait plus qui avait été sa sœur, ni comment elle s'appelait elle-même, ni si c'était l'hiver ou l'été. Elle avait oublié à quoi pouvait servir une chaussure, un brin de laine ou une cuillère. 10 ans lui ont suffi pour s'affranchir de tout souvenir. Il semblait que ce fût tâche à sa convenance, aussi facile à mener à bien que de chasser d'un geste négligent les courtes boucles blanches qui avaient tendance à lui encombrer la nuque, ou de balayer en un tournement les miettes invisibles qui jonchaient la table. Davantage que des traits de son visage, je me souviens du bruissement de la peau dure, sèche, de sa main sur le bois de la table de la cuisine. Du fait aussi que ses doigts bagués se refermaient résolument sur les miettes, un peu comme s'il tentait de saisir au passage les ombres fuyantes qui lui traversaient l'esprit. Mais peut-être aussi Bertha voulait-elle simplement, plutôt que de les voir finir sur le sol, les jeter aux moineaux qui prenaient, affolâtrés dans le sable du jardin au début de l'été, un plaisir tel que les petits radis finissaient toujours le ventre à l'air. Plus tard, à la maison de retraite, la table était en formica et la main de grand-mère s'est tue. Avant que la mémoire ne lui fît totalement défaut, Bertha nous coucha sur son testament. Ma mère, Christa, hérita de la terre, tante Inga des valeurs mobilières, tante Harriet de l'argent. Bijoux et meubles, linge et argenterie, devaient être partagés entre ma mère et mes tantes. Moi, la petite dernière, j'héritais de la maison. Clair comme de l'eau de roche, tel était le testament de Bertha. Une douche froide en vérité. Les valeurs mobilières étaient de peu de valeur, les pâturages de la pénéplaine d'Allemagne du Nord n'avaient d'attrait que pour les vaches, de l'argent il n'y en avait guère, et la maison était vieille. Bertha avait dû se rappeler combien j'aimais la maison autrefois. De ses dernières volontés, nous n'avons été informés qu'après les obsèques. Je me rendis seule sur place. Ce fut un voyage long et compliqué à bord de différents trains. Depuis Fribourg, il me fallut traverser le pays dans toute sa longueur avant de descendre d'un autocar de ligne presque vide qui m'avait trimballé de localité en localité à partir d'une fantomatique petite gare de province pour me déposer finalement tout là-haut, à Bootshaven, à la station située juste en face de la maison de grand-mère.